Allez, salut à tous et bienvenue pour ce premier podcast de Permaculture Design. Bienvenue à tout le monde. On vous propose ce nouveau support là, un petit peu pour mettre un peu de vie, pour donner des opinions, pour parler de sujets divers et variés avec vous, en direct avec vous. Donc là, c'est Benjamin Broustet qui vous parle. On va parler aujourd'hui dans ce premier podcast du jardinage en permaculture comme modèle agricole. Oui, c'est un peu ambitieux comme thématique, mais aujourd'hui, eh bien, on voit qu'on a un modèle agricole qui est à bout de souffle, hein, qui est complètement destructeur de l'environnement, et y compris de la santé publique. On a besoin de trouver de nouvelles solutions, hein, des solutions créatives pour l'avenir, pour nourrir l'humanité. Et justement, on va parler d'une de ces possibles solutions dans ce premier podcast. Voilà. Alors, on fait toujours les mêmes constats. Hein, les grands de l'agro-business, maintenant, aujourd'hui, ils entrent dans le monde de la permaculture, de l'agroécologie, des écotechnologies. Bon, c'est pas très surprenant. Hein, l'image d'entreprise écologique, aujourd'hui, ça devient incontournable pour eux, pour reconquérir un petit peu le public, après des grandes débâcles médiatisées du secteur de l'agro-industrie ces dernières années. Hein, on a eu vaches folles, on a eu... viande avariée dans les plats cuisinés, on a eu les pesticides et OGM. Aujourd'hui, les grands de l'agro-business, ils ont besoin un petit peu de remettre leur image au goût du jour, si je puis dire. Alors, on doit retrouver une image humaine, faire de l'agriculture urbaine, de l'agroécologie, du bio, hein, et même maintenant de la permaculture. Mais tout ça, c'est à dimension industrielle, et surtout avec des objectifs qui restent inchangés, finalement. Hein. C'est le profit à court terme, la maîtrise totale de la filière agroalimentaire, et puis par là même, bien entendu, le maintien de la population sous contrôle. Hein. On change rien, hein, au niveau des tâches de fond, si je puis dire. Alors, on commence à nous resservir la bonne vieille argumentation du « Oh, mais vous savez, monsieur, dame, on va devoir nourrir 14 milliards de personnes, et puis on a des pénuries de ci, de ça, alors on n'y arrivera jamais sans la technologie, hein, vous savez ». Alors nous, chez Permaculture Design, on fait partie des personnes qui ont été contactées, par exemple, pour étudier des systèmes innovants. Alors, on nous a contactés en nous demandant de faire des fermes urbaines immenses de plateaux de 6000 m², etc. À 50 millions de dollars la ferme, non, je blague pas, avec des projets dans chaque capitale du monde. Donc, c'est un responsable de projet qui vous contacte, hein, et puis qui vous demande de votre expertise sur un domaine. Et si vous souhaitez participer à ce projet qui se veut, bien sûr, à l'avant-garde du respect environnemental. Et puis, quand vous creusez un petit peu le sujet, parce que quand même, même si on est flatté au départ, hein, que l'ego en prend un petit coup, là, hein, ça fait du bien, et puis on se dit « Oh, c'est grisant tout ça !» Eh bien, quand on creuse un petit peu, hein, parce qu'on essaye quand même toujours de rapporter ce qu'on fait aux éthiques, c'est quand même un petit peu la base de la perma, on prend peur, quoi, complètement. Hein, vous apprenez qui est-ce qui finance ces recherches, comme par hasard, c'est la Fondation Rothschild, c'est la Fondation Rockefeller qui sont quand même les instigateurs de la Révolution verte et de catastrophes écologiques et humaines grandiose sur la planète depuis presque un siècle. Alors, on s'aperçoit qu'on est en train de se faire blouser une deuxième fois, quoi. Hein, et que ces beaux projets écotechnologiques, ils sont pas là pour le bien de la planète et celui des hommes, mais ils sont là pour le bonheur des actionnaires. Hein. Alors, est-ce qu'on souhaite collaborer au développement de tout ça? Nous, on a clairement choisi de fuir ce genre d'initiative. Hein, même si c'était un petit peu grisant au départ, on s'est vite aperçu que il y avait des choses derrière qui étaient quand même assez effrayantes. Et on espère que de nombreuses personnes concernées feront la même chose. Alors, on nous vend des écotechnologies géniales, hein, des super high-tech, des fermes d'avenir en permaculture, toutes nouvelles, qui ont inventé des super méthodes qu'on connaît depuis un siècle, hein, qui sont sponsorisées par des Jardiland, des Fleury Michon, qui sont quand même les champions de la maltraitance animale, hein, qui sont sponsorisées par Rustica, qui sont sponsorisées par Casino, le groupe Casino quand même, hein, qui s'intéresse à l'agroécologie Et au futur de nos enfants, hein, ils sont gentils quand même, hein. Alors les fermes d'avenir en permaculture, faudrait peut-être se poser un petit peu la question de quel avenir justement on veut donner à nos fermes et à nos enfants. Bon, alors ils ont enlevé quand même la page sponsor sur leur site internet, ça a dû commencer à jaser, donc on ne le voit plus. Mais bon, alors bah, par exemple, on a aussi des modèles qui sont basés sur des immenses serres hydroponiques, ou alors au moins pire, aquaponiques, avec une grosse machinerie technologique, écologique, high-tech là-dedans, des super fermes urbaines, en veux-tu, en voilà, et puis bien d'autres excentricités agricoles urbaines énergivores aux coûts exorbitants qui sont ultra centralisées et tout sauf résilientes. Alors ça, c'est clair. Bon, à propos, j'ai rien contre l'aquaponie, hein. Sachez qu'à partir du moment où elle est utilisée correctement dans un contexte familial, dans un contexte d'entreprise éthique, et surtout si ces produits profitent aux humains et à l'environnement, ça ne me pose aucun problème. Par contre, ce qu'on essaye de nous vendre en ce moment dans certains projets, ça me pose des problèmes éthiques, ouais, ça c'est sûr. Alors, bon, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que le supermarché de demain, il n'aura même plus besoin de personnel, il n'aura même plus besoin de producteurs, les serres seront directement sur site. Et puis, bah, ça va être des économies d'échelle qui vont ravir les actionnaires. Là on est au top, hein. On va vous sortir en plus des arguments pour vous convaincre, toujours les mêmes. C'est du local, c'est frais puisque c'est produit à proximité. Sur certains projets, c'est bio. Ça va réduire la pollution. Bah oui, moins de transport via les camions. Et puis l'inévitable, bien sûr, l'inévitable, ça va créer des emplois. Dans mon village, Nestlé est en train d'installer aussi une usine d'embouteillage d'eau qui va réduire les nappes à néant. Mais ça crée 12 emplois, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme, hein. Donc, les maires vont se battre, hein, pour proposer des terrains en ville à des prix défiant toute concurrence pour attirer ces projets alléchants sur le papier chez eux, quoi. Alors, l'idée pour ces grands groupes d'agrobusiness, c'est de convertir l'agriculture conventionnelle qui est à bout de souffle en des lieux de production en ville, avec au rez-de-chaussée le supermarché et puis au-dessus la serre de production. Hein, donc ces systèmes, ils sont intéressants, ils cumulent les avantages pour ces groupes, hein. On va éviter les paysans avec leurs terres polluées, ils seront propriétaires de toute la chaîne, hein, de la production et de la distribution, et puis on met en place des brevets, hein, de ces systèmes qui empêchera définitivement toute concurrence des paysans, puisqu'ils seront plus dans la filière de distribution, ils devront s'endetter sur des sommes certainement importantes pour pouvoir exploiter un de ces systèmes. Bref, le système ne change pas, on repeint en vert, et puis des multinationales prennent encore plus de pouvoir et de profit. Donc ça, est-ce que c'est ça qu'on veut pour le futur de nos enfants et le futur de notre agriculture? Je pense pas, hein. Donc voilà. Alors avec tout ça et des projets de cet acabit qui s'installent sur notre territoire, il nous semble important de reparler du sens du travail des permaculteurs. C'est pour ça qu'on vous parle de ça aujourd'hui et de leur souhait profond. Quel est le souhait profond d'un permaculteur, c'est évoluer vers un nouveau paradigme, faire transiter le modèle de société qui existe vers un modèle plus résilient, plus juste pour les humains et la terre, et pas autre chose. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités plus simples, plus résilientes, plus régénératives pour solutionner les problématiques des prochaines décennies? Nous, sincèrement, on en a plein notre chapeau. Et le jardinage en permaculture, ça peut être très bien un de ces modèles, parce qu'il y en aura certainement, bien sûr, beaucoup, agricole, qui sera viable dans les milieux urbains, semi-urbains, ruraux de demain. Alors, c'est une des solutions, oui. On pourrait imaginer une agriculture de jardin, pourquoi pas. Un fait de petits systèmes intensifs qui ferait environ 1000 m², où le travail à la main est plus efficace que celui des machines, évidemment, hein, sur des surfaces comme ça, et où l'on produit suffisamment pour nourrir un foyer et dégager des surplus à vendre. On est sur quelque chose de simple, de rustique, de résilient. Alors, on a de nombreux exemples dans le monde et en France d'ailleurs que ce type de surface peut être hautement productive. Hein, ces jardins donc seront durables, productifs, écologiques, intégreront peut-être de temps en temps du petit bétail, des volailles. Ils peuvent s'adapter à un large éventail de systèmes de conditions, hein, climatiques, économiques, culturelles, et mettre en place les principes de permaculture. Alors, en considérant le jardinage comme ça, comme un modèle agricole, on peut entrevoir une agriculture et un développement urbain et périurbain beaucoup plus durable que les solutions écolo, techno, agronomiques, etc. qu'on nous propose, quoi. Alors, quels peuvent être les bénéfices d'un modèle agricole comme celui-ci, de jardinage, de jardin? Des bénéfices sociaux déjà, hein, puisqu'on en, on, c'est quand même principal. On crée des unités de production qui sont décentralisées. Voilà, la permaculture, c'est ça. On va décentraliser les choses, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, que centraliser les choses sont importantes. On va être ultra localisé. Et donc, ces unités vont être à haute valeur ajoutée sociale, en termes d'emploi, en termes de liens entre les gens, les générations, où chacun, du plus jeune au plus ancien, peut remplir un rôle. Ensuite, on encourage vivement la résilience locale, la création de revenus multiples, qui touchent de nombreuses personnes, et pas simplement un ou deux Pékin qui vont travailler dans une serre hydroponique, qui favorise la distribution et la circulation des richesses. C'est quand même, ça aussi, la base de la perma. Alors, c'est en faisant évoluer nos habitudes alimentaires aussi vers plus de produits sains, des produits goûteux, locaux, de saison, eh bien, qu'on pourra renaturer les gens. D'accord, les gens en ville qui sont dénaturés, qui sont complètement sortis et déconnectés de la nature, et aller vers une société qui sera plus consciente de son lien avec la terre et avec la nature en général. Donc ça, c'est quand même, en termes de bénéfices déjà immédiats, c'est quand même énorme. En termes de bénéfices environnementaux, une agriculture de jardin, eh ben, c'est chouette parce qu'on peut facilement collecter, utiliser les différents déchets organiques qui sont générés au quotidien dans les milieux comme ça. Des déchets de jardin, des déchets de cuisine, des excréments humains, des excréments animaux, des déchets de restaurants, etc. Donc ce super apport en matière organique, là, eh ben, il permet d'assurer la fertilité des sols. Il éviterait un important traitement des déchets en aval. Il faut savoir que 50% des déchets ménagers urbains aujourd'hui, ce sont des matières organiques qui sont valorisables. Donc c'est quand même énorme, encore une fois. En termes de bénéfices environnementaux, on peut aussi citer la gestion des eaux, des microclimats, des énergies, des nutriments, hein, qui peut être pensé à l'échelle de chaque unité. Dans ces milieux-là, et qui pourrait permettre d'éviter des effets d'accumulation et par incidence des pollutions, et d'optimiser aussi les productions. D'accord ? Donc c'est pareil, là on pourrait se servir d'un problème comme d'une solution en ville et utiliser, hein, comme ces deux derniers points, utiliser des problématiques et des phénomènes qui sont actuellement polluants ou gênants comme solution. Dans ces environnements-là, dans ces bénéfices environnementaux, on peut cultiver aussi biologiquement sans grande difficulté. Et puis organiser des associations et des rotations de cultures complexes, alors que c'est quasiment ingérable en agriculture commerciale de grande taille. Quoi. On favorise aussi les circuits courts, évidemment. Là, on y est à fond. Hein. On diminue les transports, les emballages, etc. Et puis, il y a des bénéfices économiques aussi. Il faut quand même en parler de ça. Hein. C'est quand même important. Il n'y a presque pas de gaspillage dans les récoltes. On n'a pas besoin de faire de sélection pour éliminer les produits non esthétiques, non transportables, non calibrés, etc. La quasi-totalité de ce qui est produit est consommé ou vendu. Donc, c'est quand même aussi intéressant. Les productions peuvent être diversifiées et organisées par différents acteurs. Donc du producteur au consommateur là, hein. Et tout ça peut être designé par des designers en permaculture pour que les produits des uns bénéficient aux besoins des autres et inversement, et ce à l'échelle locale. Ça peut être, il peut y en avoir qui s'occupent de faire des pépinières, d'autres des plants, d'autres des fruits, d'autres des légumes, d'autres des plants, des semences, etc. Voilà. On peut imaginer d'ailleurs une rue d'un quartier entièrement organisée sous ce modèle là, hein, avec la population qui s'organise là-dessus. Donc, dans chaque petit bout de terrain, eh ben, on a une production. Et puis, tout le monde s'entend sur une production de quartier. Ou alors, on pourrait imaginer, moi, je rêve complètement, là, mais des lotissements producteurs, des cités maraîchères, enfin, des choses comme ça. Enfin, ça serait super chouette. Alors, les jardins, c'est aussi des espaces de vie qui sont à taille humaine et qui favorisent l'observation. En permaculture, l'observation, c'est number one, c'est ce qu'on fait en premier. Et donc, la réactivité et l'efficacité dans nos interventions, hein, la réponse à certaines demandes. Vous voyez, on peut être très réactif dans des petites entités comme ça, on peut beaucoup observer, on peut beaucoup contrôler. Donc, ça rejoint un principe de permaculture, vous connaissez certainement, favoriser les petits systèmes intensifs et les solutions lentes. Avec une agriculture de jardin, eh ben, on peut aussi réduire énormément les coûts en intrants et en sortants. Les fertilisants, le transport, le stockage, le marketing, le conditionnement à la préparation des denrées périssables. Donc voilà, là on diminue tout ça. On diminue aussi bien sûr les besoins d'intermédiaires et donc le gaspillage qui en découle. Toujours au niveau économique, c'est quand même, on a quand même une belle liste là. On crée des compléments de revenus. D'accord, même si c'est pas des emplois à temps plein, mais on crée aussi de la disponibilité. hein, pour certaines personnes, de la réduction dans les déplacements, hein, parce que si on est ultra localisé, eh bien sûr, les déplacements sont beaucoup plus diminués. On crée des nouveaux emplois qui sont gratifiants pour les gens qui sont dedans, sains, qui ont un sens. C'est quand même aussi la base d'un travail qui est gratifiant, c'est de savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, est-ce qu'on est utile ou pas. Voilà, on crée tout cela. Donc finalement, on aboutit vers une nation qui est en meilleure santé et puis qui a aussi moins de besoins médicaux, puisque est-ce qu'on mange des produits sains aussi? Ça, c'est quand même pas mal. Bon, ça, c'est commun à de nombreux modèles d'agriculture biologique et autres, mais voilà, ça en fait des avantages quand même, hein. Alors en termes de freins, malheureusement dans nos pays riches, bien il y a vous connaissez l'histoire, des décennies de nourriture à bas prix ont fait complètement décliner le jardinage en termes de moyens de production alimentaire. Alors le jardinage perdure encore dans nos pays, mais avec des pratiques qui sont souvent très énergivores et parfois dangereuses pour l'environnement. Il y a quand même pas mal de pesticides qui sont employés par les jardiniers amateurs. Alors finalement, si on regarde les analyses économiques classiques, eh bien, elles rejettent l'idée qu'une agriculture de jardin puisse prospérer par rapport à l'agriculture commerciale actuelle. Parce que ce modèle ne permet pas de faire des économies d'échelle. Mais cette vision, qui est plutôt prédominante, elle occulte à tort des niches de développement qui sont possibles pour des petites, voire des micro-exploitations, qui répondraient à des nouvelles valeurs et des nouvelles attitudes de consommation issues de préoccupations écologiques et sanitaires qui sont quand même très présentes aujourd'hui. Hein? Alors, évidemment, il pourrait être argumenté aussi que telles petites exploitations aujourd'hui auraient besoin d'être subventionnées pour exister. Mais ce n'est pas obligatoire. Elles n'ont pas besoin d'être subventionnées. Ça peut, oui, mais on peut aussi faire appel à des financements participatifs, à des financements par souscription, à des systèmes d'AMAP, d'achat de parts sociales du public. Hein, tout ça, c'est réaliste, tout ça, c'est envisageable. Il y a plein de modèles qui existent dans ce domaine. Alors, pour conclure un petit peu sur ce premier podcast, eh bien, il est possible qu'un tel modèle reste marginal dans la production alimentaire. Ce qu'on veut surtout, c'est poser des réflexions, nous, avec Permaculture Design, sur l'agriculture de demain. En tout cas, si les marchés économiques et financiers parviennent à maintenir des niveaux de prix aussi bas sur les matières premières, eh bien, si les problèmes écologiques globaux restent maintenus au second plan, ça restera marginal, ça c'est clair. Mais c'est peut-être pas ce qui est en train de se passer on se moment. Hein. On va en parler, hein, juste après. Il est clair qu'aujourd'hui, le passage d'un jardinage de loisirs, consommateur d'énergie et polluant, à un jardinage en tant que modèle agricole pour produire efficacement des fruits et légumes, eh ben, ça nécessitera une révolution économique et sociale. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, c'est impossible. Hein. Mais c'est impossible. C'est sans compter sur plusieurs facteurs qui sont importants pour générer, pardon, ce changement social et radical. Déjà, des prévisions d'avenir qui sont de plus en plus restreintes. Par le biais d'une flambée des prix des matières premières. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les prix des légumes, des fruits et même des biens de consommation courante en ce moment, mais ça devient la catastrophe, quoi. Alors les produits biologiques, on n'en parle même pas pour les gens qui sont urbains et qui vont au magasin biologique, hein, parce que c'est vraiment hors de prix, quoi. Hein. Donc voilà, en ce moment, c'est un facteur qui est important et qui pourrait commencer à faire comprendre qu'une économie qu'un modèle agricole basé sur le jardinage en permaculture pourrait être viable. Il y a aussi les problématiques écologiques qui sont toujours plus importantes. Hein, les ressources en eau qui sont de plus en plus rares et qui sont de plus en plus accaparées. Les dérèglements et changements climatiques. Il y a des pouvoirs aussi publics qui sont confrontés à leur échec total à créer une croissance économique durable, on le voit bien, hein, et qui sont de plus en plus enclins à soutenir des modèles durables permettant à des chômeurs de retrouver une activité. Ils cherchent des solutions, les politiques aussi, hein. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont faites, il y a des critiques qui sont possibles, mais il y a aussi des gens dans la classe politique qui sont à la recherche de solutions et qui sont prêts à écouter des nouvelles choses. Donc, à nous de les convaincre. Et enfin, il y a des individus et des familles qui ont une capacité d'adaptation qui peut être très rapide quand le besoin se fait sentir. Donc, on peut basculer éventuellement en réunissant tous ces facteurs-là vers ce type de modèle agricole. Alors, ça pourrait se développer très rapidement et puis devenir une solution, encore une fois, parmi d'autres, hein, je le rappelle. C'est pas ce qui... On n'est pas là en train d'imposer un dogme avec la permaculture et le jardinage, etc. Mais ça peut être une partie de la solution. Et d'ailleurs, dans plusieurs pays ou dans plusieurs régions, bah, cette solution-là, elle est toujours d'actualité, elle existe encore. Hein. Il faut savoir que les petites et les micro-organismes sont aussi toujours à l'origine des renouveaux économiques et de la majorité des emplois dans notre pays. Les ménages, les foyers, eh bien c'est les gens, la population, c'est la base principale d'où émergent toujours ces structures. Et puis la créativité. Donc voilà, on y est. Alors pour que l'agriculture redevienne durable, eh bien, il va falloir qu'elle se base sur une culture paysanne, une nouvelle culture paysanne post-industrielle dans laquelle il y a un grand nombre de personnes qui développeront de l'expérience et des compétences nécessaires à ce modèle agricole décentralisé d'agriculture de jardin, là. Donc sur le long terme, bah, ce type de modèle pourrait redynamiser l'agriculture commerciale grâce à de nouveaux fermiers, des nouvelles méthodes adaptées, super adaptées et ultra localisées, et puis des systèmes de production intégrés, réactifs, tels que la permaculture nous les démontre dans ses diverses expériences depuis les années 70 où elle est apparue et elle s'est développée. Alors, la permaculture, c'est un concept global, c'est un concept holistique. Hein, dont le jardinage et l'agriculture durable est un sujet central. Mais attention à ne pas tout confondre, hein, parce qu'aujourd'hui, la permaculture, c'est un peu un sujet fourre-tout que l'on confond beaucoup en ce moment avec l'agroécologie. La permaculture, c'est pas que de l'agroécologie, ça va bien plus loin. Hein, on parle de finances, d'éducation, on parle d'éthique, on parle aussi de construction, de choses comme ça. Hein, on parle aussi de relations humaines, de vivre ensemble, de gouvernance. D'accord. Donc moi, en ce moment, je suis un petit peu désorienté par certains sujets qui traitent de la permaculture où on voit que de l'agroécologie. Donc voilà, recentralisons un petit peu les choses. Et dans cette agriculture de jardin, eh bien, on voit qu'on touche un petit peu tous ces secteurs par la même occasion. Alors, en revenant à la production de nourriture, c'est vrai que c'est la base. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup en permaculture. C'est ce qui permet à de nombreuses personnes dans le monde de produire leur subsistance. Et puis, on cherche à l'inclure dans une démarche de permanence, de durabilité, en accord avec son contexte, son environnement. Mais on souhaite être et rester vigilant dans les modèles qu'on nous propose. Hein, et surtout ici chez Permaculture Design, moi on met un point d'honneur à conserver un sens et une éthique dans notre rapport à la vie en général. Donc l'évolution vers un contexte culturel où les humains entre eux, leur relation avec leur environnement tendent vers plus de maturité et de conscience, bah, c'est notre principale considération. Donc on est extrêmement vigilant sur ces modèles là qu'on nous propose, éco-technologiques, machin, etc. Et on regarde bien ce qu'il y a derrière. Et je vous conseille de faire la même chose. Et c'était un petit peu le but de ce premier podcast. Et puis en même temps, eh ben, on fait des propositions sur de nouveaux modèles agricoles basés sur l'agriculture de jardin. Pourquoi pas? Voilà, alors voilà pour ce premier podcast, j'espère qu'il vous a plu. Pour le podcast numéro 2 de Permaculture Design, on vous propose de créer, pourquoi pas, hein, des émissions de questions-réponses où on répondrait à vos questions. Alors, pour proposer des questions, si vous voulez, vous tapez dans les commentaires qui sont juste en dessous de ce podcast, hein, vous tapez proposition de questions 2 points, et puis vous tapez votre proposition à vous. Et puis ce qu'on va faire, c'est que chaque mois, si ça vous tente, on va faire des questions-réponses comme ça, et puis on va répondre à diverses questions qu'on choisira. Ok ? Voilà, écoutez, n'oubliez pas, si vous souhaitez découvrir la permaculture ou si vous souhaitez suivre nos aventures, que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Vous avez notre newsletter en téléchargeant la formation gratuite à l'accueil du blog. Vous y êtes inscrit automatiquement. Ça vous fera une petite piqûre de rappel et puis ça vous permettra de découvrir notre travail pour ceux qui connaissent déjà la permaculture ou pour les autres de la découvrir. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast de Permaculture Design. Salut les permaculteurs, à bientôt.